Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Edouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Continuons notre parcours dans le catéchisme sur ce chapitre autour de « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ». Au numéro 422 du catéchisme, nous parlions de cette bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ, cette réalité de la promesse de Dieu qui se réalise, la rencontre qui est faite avec le Christ. Le numéro 423 nous inscrit bien dans cette réalité d'un Dieu qui a pris part à notre histoire et en montre l'objectivité de cette venue. Là où parfois, certains pourraient penser la foi comme un acte tellement subjectif, tellement personnalisé, si je puis dire, que ça frise avec l'expérience psychologique ou je ne sais pas quoi, des états particuliers.
Des états particuliers, la gnose par exemple. La gnose a cette proposition de, finalement, de caractériser l'état, psychique, un état spirituel élevé par rapport à quelque chose qui serait trop corporel, trop matériel, une sorte d'élan de l'âme finalement, où celui qui ne l'a jamais encore rencontré, son âme tout à coup la découvre. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est un premier palier, mais attention de ne pas y rester, de ne pas faire pause sur l'image et de rester dans cette expérience que peut provoquer effectivement une méditation dite transcendantale, les méthodes de yoga, de zen, qui font du spirituel. Et le dhikr musulman ou les expériences bouddhistes sont du spirituel. Mais le spirituel est-il du surnaturel? C'est ça la grande question. Et nous sommes, nous, persuadés qu'avec Jésus vient la grâce et la vérité. C'est le prologue de l'évangile de Saint Jean. La grâce et la vérité, c'est une expérience surnaturelle. Et ce surnaturel s'inscrit dans un non-mépris du corporel, du temporel. C'est pour cela que Jésus s'inscrit dans l'histoire. Et ce numéro 423 nous évoque les grandes figures de cette histoire. Bien, non seulement Nazareth, cette petite ville du nord d'Israël, dont on a retrouvé des éléments très certains d'existence à l'époque de Jésus, Bethléem, la ville du roi David, le roi Hérode le Grand, qui a eu un rôle déterminant au Moyen-Orient à l'époque des premiers empereurs, César Auguste, qui est manifesté, et Tibère, à l'époque de Ponce Pilate, Ponce Pilate qui fera condamner Jésus. Des personnages parfaitement historiques, c'est d'ailleurs très émouvant quand on va à Césarée Maritime, sur le bord de la mer Méditerranée, au nord évidemment par rapport à région de Jérusalem, mais au sud par rapport à Nazareth et Tibériade, mais le long de la Méditerranée, il y a cette grande base maritime qui avait été construite par Hérode le Grand. Et il y a une stèle que l'on a retrouvée avec le nom de Ponce Pilate. C'est très touchant pour nous chrétiens parce qu'il y a un enracinement dans l'histoire. Jésus a vraiment mis nos pas dans ses pas. Et cette histoire se prolonge à travers l'Église, à travers tout ce que Jésus nous a laissé de ses actes et de ses passions, que nous retrouvons dans les sacrements et à travers ces paroles qui se font chères en nous le jour où nous les accueillons. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 14, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. C'est très très fort, c'est-à-dire qu'il y a une promesse d'un prolongement de ce que la bienheureuse maintenant sainte Élisabeth la carmélite de Dijon disait comme une sorte de incarnation de surcroît qui se fait dans le cœur des saints. une incarnation de surcroît. C'est-à-dire cette demeure se prolonge. Et Jésus, non seulement a eu un impact historique, mais dans un moment très précis, mais il a un impact historique dans nos vies d'une manière très précise. Le baptême, les sacrements, la rencontre que l'on peut faire avec lui dans un cœur à cœur, etc. Il y a de multiples étapes et ces étapes se prolongent jusqu'à son retour dans la gloire. C'est non-stop. C'est-à-dire, l'Église est une incarnation prolongée, comme disait avec génie le grand Bossuet.
Ah oui. C'est du reste, ce que tu dis là, c'est l'article 424, mû par la grâce de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'après avoir donc présenté ce que tu disais tout à l'heure, cet enracinement dans une histoire avec des personnages connus, etc., Hérode le Grand, Tibère, on aboutit à cet article 424, mû par la grâce de l'Esprit Saint et attiré par le Père, nous croyons et confessons au sujet de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il faut bien qu'à un moment ça sorte par notre bouche, par notre confession de foi. C'est sur le roc de cette foi confessée par Saint Pierre que le Christ a bâti son Église. C'est ce que tu disais, ce prolongement.
Le prolongement de l'Église, exactement. Il y a cette vitalité qui est donnée à partir de ce premier élan. Et Jésus ne nous a pas laissés seuls, il nous l'avait promis dès le début de son itinéraire qu'il allait bâtir cette église. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il lui a dit au même moment qu'il y a cette profession de foi de Pierre, et cette promesse se réalise. Nous avons une continuité depuis les apôtres jusqu'à nos évêques. Il n'y a pas de discontinuité. C'est d'ailleurs un des grands arguments de saint Irénée de Lyon, un de nos premiers pères théologiens, qui, contre les gnoses, contre les hérésies, contre les groupes schismatiques, disait nous avons, nous, la certitude qu'il y a une continuité apostolique de l'Église à travers la succession dans le temps. Les hommes se sont succédés. Après Pierre, il y a eu Lin, Clée, Clément, etc. Toute cette liste des apôtres jusqu'à nos papes actuels, et qui montre que Dieu est fidèle. Il envoie toujours quelqu'un et il réalise ses promesses. Voilà, je crois qu'il y a dans cet ensemble 422, 423, 424 une nécessité d'une grande action de grâce pour ces promesses qui sont tenues, non seulement celle de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, mais celle du Nouveau Testament aussi qui continue, puisque nous ne sommes pas laissés seuls, l'Esprit Saint agit, et que ce soit dans l'institution, dans les sacrements, dans la parole, dans les rencontres, dans ce peuple de Dieu qui avance d'une manière visible, mais aussi avec des réalités de grâce, et puis d'une manière invisible, nous avons tous les saints du ciel qui nous attirent, les anges, etc. Il y a un monde surnaturel qui nous conduit vers le chemin, sur ce chemin vers le terme. Il y a un début, il y a une fin. On n'est pas dans un espèce de monde gnostique, cyclique, dans lequel il suffirait de rentrer, de s'élever au-dessus de ceux qui seraient trop charnels, les iliques, pour reprendre une expression de la gnose, et monter petit à petit vers les pneumatiques. Non, nous reconnaissons que le Christ s'est fait chair, qu'il ne l'a pas méprisé, et du coup, notre chair prend une valeur considérable par le fait que Jésus l'a épousée et l'a fait sienne. Il est uni, selon l'expression de l'Église, hypostatiquement, c'est-à-dire dans sa personne, à cette chair. Et nous ne devons jamais craindre d'avoir recours à lui et de passer par lui pour aller vers le Père. Sainte Thérèse d'Avila aimait bien le dire à ses sœurs, « Méfiez-vous des expériences spirituelles qui ne passent pas par notre Seigneur Jésus-Christ. Le risque est grand de dérailler, de tomber dans une impasse et d'être pris finalement par celui qui est aussi très spirituel. On l'oublie toujours, mais le diable est purement spirituel. Oui. Et il peut très facilement prendre quelqu'un dans sa nasse et lui faire croire qu'il a fait beaucoup de progrès, qu'il a fait beaucoup d'œuvres spirituelles. Et en fait, c'est une impasse totale et un blocage par rapport à l'Église, par rapport à Jésus-Christ.
Nous voyons, je suppose que ça t'arrive aussi, dans l'accompagnement spirituel, nous voyons facilement des personnes qui ont besoin d'essayer de trouver des expériences très spéciales à dire, comme si cela allait confirmer leur vie de foi, leur vie spirituelle, ou inversement, des personnes qui sont désemparées parce qu'elles entendent d'autres exprimer des tas de choses qui sembleraient extraordinaires. Mais elles se disent, moi ça ne m'arrive pas, moi j'ai pas eu je me souviens de jeunes filles qui est venue me dire, j'ai rencontré d'autres jeunes qui ont dit qu'elles avaient des torrents d'amour dans le cœur, moi je n'ai jamais eu ça, je n'ai pas la foi. Et ce que tu dis est extrêmement important. Ce n'est pas ces expériences, ces torrents d'amour, tant mieux si on est si on a la grâce de ça à un moment ou à un autre. Mais Dieu merci, notre foi ne s'appuie pas sur ça. C'est un cadeau donné à un moment, éventuellement. Mais c'est la foi du quotidien, la foi de la route qui va être importante.
Et voilà, et ce roc qui a si bien été confessé par Saint Pierre, c'est sur le roc de cette foi que le Christ a bâti son Église et nous bâtit encore aujourd'hui. Nous sommes bâtis sur cette foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette rencontre. Ça me renvoie à bien des expériences ou des situations, si je puis dire. Il faut parler d'expérience. En tout cas, je pensais simplement que dans mon discernement de vocation, jadis, j'aimais dire que, certes, la prière me permettait d'appuyer ce discernement, mais le quotidien de mon travail était un lieu important de vérification et d'union au Christ. Il ne faut jamais l'oublier, justement, ces enracinements de notre propre existence et de Dieu dans notre existence.